C'est quoi? C'est une copie ou c'est des vrais verdures, Alex?
C'est des vrais durs, Alex. Parce que j'avais des copies et en fait, les copies sont atroces. Elles ont cette particularité de jamais être tout à fait correctes. Et je ne pensais pas que ça pouvait se faire sur les verres, sur des objets simples. Mais en fait, non, c'est un peu trop épais. C'est la bordure où tu déposes les lèvres est toujours un peu, tu vois, un peu irrégulière. C'est la base, c'est pas tout à fait plate. Enfin, c'est horripilant en fait.
Je crois que c'est au contraire sur ces matériaux, non, sur ces objets très simples, que tu vois le plus les effets de la contrefaçon, les effets délétères de la contrefaçon. Tu le vois sur même des trucs aussi bêtes que les couverts, par exemple. Mais les verres, c'est un bon exemple, hein, les tasses Bodum et puis les contrefaçons de tasses Bodum. Tu te rends compte qu'il n'y a rien qui va dans la répartition du poids, et notamment que la base n'est pas assez lourde et ça a des effets subtils quand tu la prends en main, quoi. Oui.
Et c'est très fragile, beaucoup plus fragile que les
Oui, en plus,
originaux.
oui, c'est pas les mêmes
Et
matériaux.
c'est marrant que tu parles de ça parce que j'avais tout à l'heure, là, j'étais tombé sur une publicité sur Instagram parce que je consomme Instagram. Je crois que depuis qu'on en a parlé, je suis encore plus addict. Ou alors, peut-être que je le remarque plus. Non, je crois qu'en fait, je suis vraiment plus addict parce que maintenant, je regarde les Reels. Avant, je ne le faisais pas. Y a-t-il un médecin dans la salle? Et du coup, j'avais reçu une publicité parce qu'il y a une publicité par publication et c'était sur une tasse, tu sais, un peu à la Bodum, double paroi, avec un sapin de Noël à l'intérieur, quoi. Et inversé. Parce que sinon, c'est difficile de mettre un liquide dedans, vu qu'il serait. Enfin, peu importe. Et du coup, je suis allé voir sur leur site parce que je me dis, tiens, j'étais intrigué par ce design et ça valait. À la base, un prix bidon de 72 euros, je crois. Et en fait, 55 euros, prix spécial, profitez-en. Et donc, évidemment, je vais sur Amazon et je vois le même modèle à 18 euros. Et bon, c'est un faux. Il n'y a pas de truc qui fait ça à l'origine. C'est que c'est le genre de modèle qui existe, en fait, par copie. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau marché de modèles, enfin, de produits comme ça, où c'est. Il n'y a pas d'original. Tout est une copie plus ou moins à une certaine échelle, quoi. Je sais pas comment dire.
Ah bah c'est la magie, tu le vois pas mal dans les produits qui sont conçus pour le dropshipping, mais où
Ouais, c'est ça.
t'as quelqu'un au fin fond de la Chine qui crée un produit que tu peux pas vraiment appeler contrefaçon parce que c'est pas une copie des calques, mais qui est
C'est ça.
très inspiré par une tendance ou par un objet. Enfin tu reconnais l'inspiration quoi clairement. Et ce produit est à son tour copié et décliné dans 15 versions en marque blanche. Tu le vois dans les stylos plumes, par exemple, où t'as des marques entières qui n'existent que pour faire des produits qui sont, pour certains, des contrefaçons complètes, notamment le Lamy Safari, qui est peut-être le stylo plume le plus copié de la planète, mais aussi pour faire des choses qui sont subtilement inspirées de ce que font Lamy, de ce que font Pilot, de ce que font Sailor, qui sont pas des contrefaçons directes, mais où tu reconnais évidemment tout de suite l'inspiration
Bien sûr.
et où en fait c'est pas des stylos quoi. Au mieux c'est des cutters, au pire c'est des seringues, mais c'est pas des stylos plumes quoi. Et maintenant tu vois des contrefacteurs être contrefaits, ce que je trouve quand même d'une ironie mordante, mais enfin, c'est le pire du capitalisme quoi.
Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais ça, c'est un des phénomènes. Le dropshipping, en est un autre. C'est très particulier, quoi. C'est embrasser l'arnaque, tu vois, et.
Et puis oui, cette espèce de culte de la fausse promotion aussi. On te sort un prix qui sort de nulle part, quoi. C'est un produit qui coûte 8 euros à être fabriqué et que tu retrouves à 200 euros barré, réduction, moins 80%. Bah oui, effectivement, oui. Mais qui n'a jamais été vendu au vrai
Et
prix,
puis tu
quoi.
sais, voilà, puis réduction temporaire bien sûr, mais qui sera reconduite autant de fois qu'il faudra. Et ouais. Mais c'est vrai que le design, tu vois, c'est le genre de truc. C'est chiant parce que moi, ce qui me dépasse, c'est que j'essaie de le dire de manière non condescendante, ce qui est très difficile pour moi. Ce qui me dépasse, c'est qu'on se rende pas compte d'un mauvais design parfois. Mais évidemment, il faut avoir connu le bon design. Mais même avec ça, tu vois, les verres Duralex, là, je les ai achetés il y a 2 mois. Et pendant 5, 6 ans, 7 ans, j'ai vécu avec des verres Emma, tu vois. Et qu'ils étaient pas. Qui étaient vraiment moins bien, quoi. Et j'ai toléré ça trop longtemps. C'est mal. Tu vois ?
Non, mais je crois qu'on est une espèce qui a une tolérance à la douleur assez poussée.
Ouais. On s'habitue vraiment à tout, c'est ça le problème.
Oui, je crois. Et c'est aussi un souci d'éducation. J'ai toujours été jaloux des Britanniques là-dessus. Ils ont eu toute une classe d'âge, voire plusieurs classes d'âge, qui avaient une véritable éducation au design. Ça a donné d'ailleurs quelques-uns des meilleurs designers du monde. Comme quoi, il y aurait des causes qui donneraient certaines conséquences.
Et que là
enfin, quelque part, ça élève le niveau de la discussion, et donc il y a des choses qui, à nous, vont nous sembler tolérables parce qu'on n'a pas les repères, qui à d'autres vont sembler intolérables. Et quand t'as goûté, c'est pour ça que parfois d'ailleurs c'est dangereux de goûter au luxe, parce que quand t'as goûté à un objet qui est bien fait, à quelque chose qui tient correctement dans la main, à une certaine densité, et que tu retournes à la copie, que du coup tu découvres que c'est une copie.
Ouais.
Tu fais « Ah oui, non. Non, en fait.
» Oui, c'est vrai. Et le problème, c'est que ça peut très vite être très cher. Et puis, très frustrant. Ça crée cette espèce de tension entre ce que tu sais qui conviendrait, en fait, et ce avec quoi tu dois composer.
Et c'est pour ça que j'ai toujours été partisan du choix définitif. Je ne suis pas certain d'avoir dit mon dernier mot sur le sujet. Mais de dire, tu achètes une fois et tu achètes pour toujours. Et je préfère acheter... Les verres Duralex sont objectivement plus chers que les verres Emma. Mais si au lieu d'acheter 12 verres Emma, j'achète 6 verres Duralex, et que les verres Duralex me durent 3 fois plus longtemps, à la fin, ils m'ont coûté moins cher. C'est plus facile quand c'est des verres que quand c'est des vêtements ou des chaussures, que quand c'est un appartement. Mais j'y crois vraiment, quoi. En plus, c'est beaucoup plus simple d'un point de vue mental, parce que quand quelque chose casse, je sais exactement par quoi la remplacer. Et oui, ça veut dire qu'il faut en permanence t'obliger à une certaine discipline financière, parce que il faut tout simplement que t'aies le fric pour acheter ces objets-là, mais je peux pas... Malheureusement pour moi, je n'ai plus cette tolérance à la douleur. Et je peux pas, quoi. Je peux juste pas. Je peux pas vivre dans un monde qui est subtilement cassé. J'ai trop d'amour propre pour moi maintenant pour me contenter de vivre dans ce monde qui est subtilement cassé. Je préfère m'entourer de belles choses et de choses bien faites, et de choses qui ne cassent pas, et de choses qui sont faites à ma main, ou qui sont faites pour se faire à ma main, ce qui est encore plus délicieux. Et le jour où ça casse, parce que les objets ça casse, je sais par quoi les remplacer, donc j'ai même pas cette angoisse du choix, quoi. Ou cette angoisse de l'attente de la réduction. Puisque ce genre de produit n'est jamais en réduction.
Jamais. ça m'inspire deux choses, mais le monde est déjà... Enfin, pour remonter sur ce que tu dis, que le monde est subtilement cassé, c'est le cas, tu vois. Tout nous le dit, ta maladie le dit, ce genre de choses. Mais justement, d'autant plus, ce qu'on peut contrôler, il faut effectivement que ce soit quelque chose qui nous permette de ne pas... mettre de friction supplémentaire entre ce qu'on voudrait faire et les moyens qu'on a de le faire. Et l'autre chose, c'est que je pense pas que le... Enfin, évidemment, l'aspect financier et de la durabilité est super important dans le bon design. Mais c'est aussi... tu vas vivre avec ça longtemps, justement.
Et il y a une dimension du plaisir. Il faut aussi se faire plaisir.
Oui.
Et subir un objet comme on peut subir certains objets du quotidien, c'est bon, quoi, j'ai donné. Et j'ai la chance... De maintenant ne plus être obligé de donner. Il y a des gens qui n'ont pas cette chance. Quand j'étais enfant, mes parents n'avaient pas cette chance. Et je ne suis pas sûr que mes parents aient aujourd'hui cette chance. Moi, oui. Donc, pourquoi pas? Et ça a plus de sens écologiquement, dans tous les sens du terme, parce que c'est une partie de ces produits sont des produits qui sont fabriqués en Europe, voire en France. Donc en plus, c'est bien, parce que tu peux même aller jusqu'à aller à l'usine pour voir comment c'est fabriqué, et avec quoi. Et puis des produits qui sont plus facilement réparables, ou qui sont de meilleure qualité, donc il n'y a pas besoin de les réparer puisqu'ils ne tombent pas en panne. Ou qui sont faits avec des produits qui sont... avec des produits et des matériaux qui sont plus facilement recyclables ou plus facilement sourçables, et c'est aussi bien à long terme. Donc oui, c'est plus cher à l'achat, mais mince. À la fin, tu t'y retrouves très 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 largement, quoi. Et
ouais.
En attendant, il y a un meilleur usage, il y a la possibilité aussi, enfin on en parlait, hein, de comment t'es capable de mettre du souvenir, t'es capable de mettre de l'émotion dans les objets, bah c'est quand même plus facile quand t'as l'objet avec toi pendant des années.
Oui.
Et puis, ce sont des objets qui t'accompagnent au sens propre comme au sens figuré, quoi. Et c'est quand même très plaisant. Or, je crois que le plaisir, c'est pas complètement inutile dans ce bas monde.
Je crois que c'est Christine de Suède qui disait quelque chose comme il faut jouir sans complexe, en gros, des plaisirs légitimes de la vie et essayer de se restreindre au niveau des plaisirs illégitimes. Mais le bon design est très clairement un plaisir légitime parce que c'est un plaisir qui découle de l'utilité ou qui se joint parfaitement à l'utilité. Mmh. Donc c'est presque autre chose. C'est un plaisir... J'imagine qu'il y a un mot comme ça parce que la langue française est riche, mais ça ancre dans le réel, quoi.
Et à l'inverse, le mauvais design est source de déplaisir...
intense.
Ouais, vraiment intense. Un exemple qui m'est tout de suite revenu en tête quand on parlait, c'est les portes de Norman, donc qui tirent leur nom du bouquin de Norman sur la psychologie du design et une des définitions du bon design. Et où une porte, c'est censé suggérer son usage. Et le nombre de portes qui te suggèrent de la pousser alors qu'il faut en fait la tirer. Et on est d'accord, dans le grand ordre des choses, ça n'est pas incroyablement terrible, c'est pas la fin du monde, quoi, que de pousser une porte qui aurait envie d'être tirée. Mais c'est juste chiant, c'est juste une coupure supplémentaire dans ton quotidien, c'est juste encore un petit coup que tu te prends derrière la tête. Mmh. Alors qu'une bonne porte, bien faite, qui te suggère... Bah, moi je dois être tiré, donc j'ai une poignée. Moi je dois être poussé, donc j'ai une plaque, par exemple, ou une barre. Ou encore mieux, je fonctionne dans les deux sens, donc on s'en fout. tu le ressens pas en termes de plaisir, parce qu'au bout d'un moment, le but d'une porte, c'est d'être ouvert. Mais l'inverse, quand elle ne fonctionne pas comme tu t'y attends, là oui, tu ressens le déplaisir, et soudainement, ça te bouffe toutes les autres interactions que tu peux avoir par ailleurs, quoi.
Mm. J'aime pas trop l'argument en plus du c'est pas la fin du monde, trois petits points, insérez ce que vous voulez. Parce que très peu de choses sont la fin du monde à part la fin du monde elle-même, et c'est un sujet, enfin, c'est un événement périodique ponctuel, tu vois, et techniquement à la fin, si ça se passe bien, il n'y a plus rien. Mais rien n'est techniquement la fin du monde. Donc c'est un relativisme assez malvenu. Parce que au final, ce qui compte dans la vie, c'est les petits actes. Et c'est ce qu'on fait au quotidien, quoi. Et si les choses se cumulent comme ça au fur et à mesure, mais ça contribue énormément à comment tu vas te ressentir au bout de la semaine, au bout du mois, et au bout de l'année, et au bout de ta vie, quoi. Et c'est exactement ce qu'on a vécu avec le confinement. C'est exactement qu'on a. Enfin, c'est des choses quotidiennes qui s'insèrent comme ça et qui s'insinuent et qui font, qui ont résultat après. C'est totalement indolore ou très peu douloureux, mais c'est là. Et ça s'infiltre, et ça existe, et ça crée quelque chose après, ça s'accumule, quoi.
Tu parlais du confinement. Le confinement, c'est une expérience qui a été rendue d'autant plus éprouvante qu'elle a été gérée à travers du mauvais design.
Oui.
J'ai suffisamment écrit, par exemple, sur le sujet de l'attestation de déplacement.
Ah, mon
Dieu. Une préoccupation très préoccupante, hein, une vraie préoccupation, qui a été une faillite totale de la conception des services publics et une faillite totale de la conception aux citoyens, une faillite totale de la conception de la vie, quoi, j'ai envie de dire. Pour un truc qui était pourtant essentiel, puisque on t'enfermait, on réglait ça par un contrat, et l'autre bout du contrat a été terrible. Et je crois qu'une partie de la frustration d'aujourd'hui, et du rejet aujourd'hui d'une partie de la population pour les mesures gouvernementales, elle passe aussi parce qu'on s'est pris... 3, 4, 5 mois de très mauvais design.
Bien sûr, bien sûr.
Qui nous a fait chier au plus haut point, quoi. Et de manière très, très profonde, hein, vraiment.
Oui, très profonde et concrète. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, après, c'est vrai que mettre à jour un formulaire, ça paraît évident pour tout le monde, mais.
Non, mais.
Tu te rappelles ce bouton-là, mais c'est absurde. Enfin, et c'était que le début. Enfin, oui, bon.
Et c'est là qu'on voit que c'est pas la fin du monde, d'accord, mais ça peut être le début d'une dépression, ça peut être les 3 secondes qui te manquent pour sortir d'un immeuble en feu, et ça peut être, oui, ça peut être le formulaire qui t'empêche de vivre ta vie dans un monde complètement chamboulé et qui fait que tu vas te mettre une balle parce que juste tu peux pas, quoi.
Ça peut être la fin d'un monde, effectivement, ouais, tout à fait. J'avoue que depuis, enfin, tu vois, ça, ce qui est intéressant avec le bon design, c'est qu'il y a quelque chose de... Enfin, tu le disais très bien avec la porte, c'est que c'est naturel. Et ça t'accompagne dans ce que tu veux faire. Et pour le coup, on parle toujours d'Apple et de bon design, forcément. Enfin, c'est l'exemplarité de la boîte là-dessus. Enfin, sa renommée dépasse les frontières, hein, n'est-ce pas ? Elle dépasse les frontières de la Californie. Mais j'ai toujours vécu avec des Macs. Enfin, mon père est imprimeur, enfin, était imprimeur et du coup a toujours eu des Macintosh à la maison. J'ai commencé avec le SE30, puis ensuite Tutti Quanti. Et c'est vrai que, enfin, bon, évidemment, quand t'es enfant, il y a aussi, t'as une forme de plasticité, toi, tu peux facilement t'adapter parce que t'as moins peur d'essayer. Mais le Mac te laissait faire ça, tu vois. Il donnait envie de tester, d'expérimenter et de découvrir. Et c'est toujours ce que j'ai ressenti. Enfin, j'ai jamais ressenti ça aussi fort que quand j'ai été sur Windows pour quelques boulots. Et où tout conspire justement à te retenir dans ce que tu veux faire, où tu peux pas retrouver les fichiers où ils sont enregistrés, tu peux pas rechercher, tu peux pas trouver les informations sur l'ordinateur, c'est compliqué. Trouver, changer de fond d'écran, c'est compliqué. Enfin, non, sans changer de fond d'écran, ça va, c'est un clic droit, ça. Mais enfin, c'est très, tu t'enlises très vite et tu essayes de comprendre comment l'ordi veut fonctionner. Sur Mac, j'ai jamais eu, enfin, même si pour l'instant il y a une espèce de dégradation de ça quand même légère avec les nouveaux systèmes, c'est quand même rien à voir, quoi.
On a le même âge, mais comme mes parents étaient encore moins riches que les tiens, pour le dire dans ce sens-là, pourrait pas être misérabiliste. moi, j'ai commencé avec l'Apple IIc. Donc, j'ai pas forcément commencé avec l'interface graphique, parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui se faisaient en ligne de commande.
Ouais.
Donc, j'ai pas forcément ce même rapport avec... ou en tout cas, cette même histoire avec le Mac. Mais je me souviendrai toujours de cet ami dont les parents étaient travaillaient dans une agence de pub à Paris et où sa mère avait ramené un iMac G3 orange en 97-98, quelque chose comme ça, et où on jouait à... Il me semble que c'était Civilization 2.
Ah ouais, ok.
Je crois que c'est vraiment le moment où ça a fait tilt dans ma tête et où j'ai su que toute ma vie tournerait autour de cette machine. Et encore aujourd'hui, je suis assis devant un iMac qui n'est pas orange, il est violet celui-ci. Mais l'informatique pouvait être fun. C'était fun, même sans la toucher, quoi, même sans interagir avec elle. Ce truc qui avait la forme d'un berlingot, qui était orange en plus, donc on parlait d'Aqua, l'interface que t'avais envie de lécher, mais là c'était pareil, quoi, t'avais presque envie de lécher la machine en plastique brillant et coloré.
Oui.
Et dans l'utilisation, je suis désolé, mais moi j'adore la souris ronde.
Ah ben ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé aussi.
Et que je cliquais avec la main entière, hein, je cliquais pas avec les doigts, je la mettais dans le creux de la main. Et encore aujourd'hui, j'utilise comme ça, hein, je pose la main dessus et je clique avec avec la main. C'était fun. Et à cette époque-là, on était au collège, il me semble, en 6e, 5e, et on était un des lycées qui avait encore des vieux i386 où on apprenait à coder dans des langages abscons créés en France. Dessus, c'était pas fun. C'était
oui.
Pas fun du tout.
Oui, c'est pas le mot que j'aurais. Oui.
Et donc, t'avais une plateforme qui t'élevait, qui t'apprenait des choses en t'amusant et qui avait une sorte de simplicité, mais dans l'immédiateté, quoi. Tu glisses un document dans la corbeille,
exact.
Et la corbeille, soudainement, elle prend du poids visuellement, quoi. Elle grossit. Et il y a des dossiers qui sortent de la... Des petits bouts de papier qui sortent de la corbeille. Et donc tu comprends que la corbeille est pleine. C'est stupide comme interaction. Mais c'est génial, c'est essentiel. C'est la base de tout ce qu'il faut faire. La corbeille est pleine. Ah, c'était pas ça sur les i386 qui étaient, je sais pas, sur Windows 3.1 ou même sur DOS, quoi. Je sais plus sur quoi ils étaient. C'était pas fun.
J'aime beaucoup ce que tu dis sur l'immédiateté, notamment, parce que ça me rappelle la musique. Donc, enfin, je joue un peu de piano et le piano est... justement un de ces instruments les plus gratifiants parce que c'est immédiat, tu appuies sur une touche et t'as tout de suite un son. Donc c'est peut-être un des plus faciles à apprendre dans mon avis pour ça, parce que voilà, t'as pas besoin de savoir comme un violon ou un tuba, tu vois, t'as pas besoin de savoir comment d'abord appréhender l'instrument lui-même pour ensuite en faire un son, quoi, en tirer un son. Et le Mac, enfin sans le Mac j'aurais jamais fait de musique de mon côté, c'est évident, parce que avec les Macs, donc, quand j'étais adolescent, il y a eu iLife qui est sorti, GarageBand, et Et c'est ça qui m'a fait, enfin, c'est comme ça que j'ai découvert, en fait, que j'ai pu m'enregistrer, faire en MIDI, tu vois, retoucher les trucs, parce que je joue pas très bien non plus, quand même. Et commencer à faire des choses, quoi. Et aujourd'hui encore, je le fais, sur Logic maintenant, mais vraiment, c'est pas quelque chose que j'aurais pu faire auparavant. J'avais essayé des logiciels, enfin, Audacity, des trucs comme ça. J'avais tenté des trucs, mais rien n'avait, enfin, ouais. Rien n'avait fait tilt, pour reprendre ton expression, quoi.
Et enfin, toi, tu dis que sans le Mac, t'aurais jamais fait de la musique. Moi, je pense que sans iTunes et l'iPod, j'aurais jamais été mélomane. L'iPod qui fête ses 20 ans, ça tombe bien. Mais où là, c'est pareil. Enfin, on parle d'immédiateté et on parlait de matérialité. Le rapport d'identité, enfin, l'identité totale entre le geste de défilement sur la molette et le défilement de la liste. Alors que la liste n'était pas circulaire, mais cette immédiateté de la roue codeuse, qui est pas une idée originale, hein, je veux dire, Phil Schiller, il l'a piqué chez Canon, hein, ça existait. Et puis les roues codeuses, on en avait chez Brown, donc c'est pas une idée qui est propre à Apple, mais se dire on va l'appliquer à une liste qui est pas circulaire et on va l'appliquer à la musique en lui donnant d'autres fonctions au fur et à mesure. Et surtout on va faire une solution intégrée où on branche l'iPod au Mac et la gestion de catalogue passe sur un autre écran. Logique qu'on retrouve aujourd'hui d'ailleurs, hein, parce qu'on peut passer de l'Apple TV, on peut passer de l'Apple TV au Mac, à l'iPad, à l'iPhone, à l'Apple Watch.
Oui.
Et on peut utiliser chaque taille d'écran pour gérer les tailles d'écran en dessous, avec l'Apple TV qui est un peu à côté, mais parce que c'est un produit qui est un peu à côté, qui est même pas dans la même pièce. Et,
oui, de toute façon, oui.
Et je trouve ça. Cette dichotomie est assez intéressante, c'est-à-dire sur l'appareil lui-même. T'avais une identité parfaite entre le geste et sa traduction logicielle.
Ouais.
Donc tu tournes la molette et tu défiles dans la liste. Mais par contre, t'as pas d'identité pour la gestion de la musique. C'est-à-dire que t'es obligé de découpler la gestion de la musique. Elle se fait pas sur l'appareil, elle se fait sur un autre appareil. Et c'est incarné, ce portail, il est incarné par iTunes. En même temps, il y avait quelque chose de très immédiat aussi, dans je prends ma musique, je la glisse sur la représentation, le petit iPod qui est dans la barre latérale.
Oui.
Et le petit témoin de progression qui est dans la barre latérale, il apparaît en plus grand sur l'écran de l'iPod. Donc on comprend ce qui se passe. Et on comprend évidemment, au fond, c'est une application qui tourne sur macOS, mais ça donnait presque l'impression que iTunes, en fait, c'était le système d'exploitation de l'iPod qui s'ouvrait sur ton Mac et que soudainement, oui. T'es en train de triturer l'iPod lui-même.
Exact, ouais.
Et ça, je pense que c'était vraiment important. Et c'est ce qui a fait de moi un mélomane, quoi. J'avais 3 CD avant iTunes et j'en ai aujourd'hui. enfin, je croule sous les CD.
Un peu plus. C'est tout à fait vrai ce que tu dis sur iTunes, qui était un peu le système de l'iPod. Mmh. Et c'est d'autant plus vrai qu'une des fonctions de l'iPod, donc du temps où ils avaient un disque dur, était aussi clé USB, un petit peu, enfin stockage, voilà.
Ouais.
Mais que c'était quelque chose vraiment de séparé et qu'il fallait aller dans le Finder pour le coup pour l'ouvrir, parce que c'était justement ce disque amovible. Mais tout le reste passait sur iTunes. Et évidemment, bon, enfin voilà, après le on sait ce que ça donnait, quoi, l'iPod, l'iPhone, et puis bon, la synchronisation iTunes a quelque peu évolué. Ça marche moyennement. C'est pas que ça marche moyennement bien, c'est que aujourd'hui, de toute façon, on l'utilise plus pour synchroniser vraiment, enfin, je crois pas.
Non, mais c'est intéressant, on passe par le nuage.
Ouais.
C'est un truc qui est. Le mot lui-même est mal défini, c'est-à-dire on sait pas vraiment c'est quoi les contours du nuage, c'est très vaporeux.
C'est très vaporeux. et beaucoup de vide.
Mais en même temps, quelque part, je crois que c'est la bonne métaphore. C'est très distant. On sait ce que ça donne. Hein, quand on voit des nuages, on sait qu'il va pleuvoir. Mais on sait pas exactement quand, on sait pas exactement où. Et c'est un peu la même chose avec la synchro par le nuage. Finalement, c'est la métaphore parfaite. C'est très loin, tout ça. Alors qu'avec iTunes, il y avait une immédiateté, il y avait cette sensation que t'avais quand même le contrôle sur le matériel. Qui passe par d'autres modalités aujourd'hui, qui passe d'ailleurs... Je crois qu'une des raisons qu'aujourd'hui les gens ils aiment les coques, ils aiment les autocollants, ils aiment les films, ils aiment tout ça, c'est que c'est aussi pour eux une manière de s'approprier leur matériel parce qu'ils peuvent pas le faire d'une autre manière. C'est la nouvelle modalité pour s'approprier le matériel, pour le faire à sa main. Et surtout pour se distinguer son matériel de la masse des 250 millions d'autres iPhones qui sont produits chaque année, quoi.
Oui, sans compter que l'iPhone en plus lui-même a son design de plus en plus monolithique. Plus ça va aller, enfin plus ouais. Ça sera le cas, donc. Avec peut-être la suppression du port, ce que c'est cela. Pour refiler de nouveau un peu la métaphore du nuage, c'est que c'est aussi quelque chose d'un peu menaçant à l'horizon des fois, et il y a ce côté un peu on sait pas trop ce que ça va réserver effectivement. Et je crois que quand on dit nuage, on serait plus, enfin on évoque cet aspect de la donnée qui nous appartient pas vraiment et qui potentiellement pourrait nous foudroyer un jour. Et alors qu'effectivement le Porfirewire 400 des iPods, c'était très local, quoi. on faisait difficilement plus local. Une petite brique comme ça que tu branches à l'ordi, puis ça se, la roue qui comme ça synchronise. Ouais.
Et je crois qu'un des risques aussi, une des menaces, c'est quand on a ce genre de discussion.
Ouais.
Qu'on a souvent, toi et moi, qu'on a souvent dans ce podcast, et que
Hashtag vieux con.
Et que les gens comme nous ont régulièrement, c'est le risque de la nostalgie un peu mièvre. Tu parlais de nostalgie un peu sentimentale, il me semble, la semaine dernière. Ces derniers jours, on fête plein d'anniversaires, que ce soit les 20 ans de l'iPod, les 30 ans des PowerBooks, les 20 ans de Windows XP, des choses comme ça. Et il faut faire attention à pas se laisser enfermer dans un certain passé et un certain passé rêvé. Je suis sûr qu'il y a plein de souvenirs que j'ai de l'iMac G3 orange de mon pote qui sont des fabrications postérieures, j'en suis certain. Y a des choses à aller chercher dans ce passé, et je crois que les MacBook Pro le montrent bien. Hein. On voit comment ils ont été capables d'aller puiser dans leur catalogue de bonnes idées et les réactualiser et faire en sorte qu'elles s'appliquent à la situation actuelle. Et je trouve d'ailleurs pas tout à fait innocent que Johnny Ive se soit permis de présenter très officiellement sa boîte de design Love From juste avant les annonces d'Apple, histoire de dire hey, « Eh oh, j'existe encore !» juste au moment où Apple est allé puiser dans ce catalogue et piller... Enfin, 30 ans de PowerBook, c'est aussi 30 ans de design par Johnny Ive, puisque Johnny Ive, son premier projet chez Apple, c'est les premiers PowerBook. Il faut dire « J'ai une expérience », il faut reconnaître cette expérience, je crois pas qu'il faille... à chaque fois repartir d'une page blanche, mais il faut pas ressasser. Faut faire attention avec ça. Et je crois que c'est pour ça, tu viens de dire hashtag vieux con, mais je crois que c'est pour ça qu'on n'est pas encore tout à fait des vieux cons. Je crois pas que ce soit pareil de se dire, on a peut-être perdu des choses au passage, et de se demander pourquoi on a perdu ces choses au passage. Est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est pas pertinent? Et toujours, justement, réinterroger la pertinence de nos choix, au fur et à mesure, en disant, mon but, c'est de vivre dans un monde qui est un peu moins cassé que ce qu'il est. Ça, c'est une chose. Et je crois que c'est une autre chose que de dire je plante mes pieds dans la terre et je dis non, c'était mieux avant, quoi. Parce que promis, c'était pas mieux avant.
Oh, c'était différent, ça.
Non, mais alors...
C'est cassé différemment.
Mais ça, c'est la réponse la plus bête qu'on puisse faire. Désolé, mais... C'était différent. Non, c'était avant.
Non, je sais ce que tu veux dire. Oui. Non, c'est vrai. En plus, je suis en plus tout à fait d'accord avec toi, parce que un de mes dadas récents, c'est une espèce d'obsession sur le fait que, enfin non, la nature ne change pas plus que ça. Pas grand-chose nous sépare des Romains antiques ou des autres peuplades d'il y a quelques milliers d'années. On reste des êtres humains avec les mêmes ressorts, quoi. Et c'est pas parce qu'on a de la réalité augmentée qu'on va changer. La nature restera probablement la même et les ressorts resteront les mêmes. Même si, bien sûr, après, contextuellement parlant, on peut appuyer sur différents ressorts à différents moments, tu vois, mais le système humain reste le même, je pense.
Mais en même temps, si on pouvait faire voyager un Romain du 2e siècle, on pouvait le faire voyager dans le temps et le ramener aujourd'hui. Il nous serait à peu près aussi inintelligible qu'un chimpanzé, et inversement. Et la nature ne fait pas tout. Et donc non, si c'était mieux avant, oui, ressortons nos iPods et nos PowerBook G3, quoi. je le fais régulièrement, parce que je travaille régulièrement sur mon G3 Wall Street. Non, c'était pas mieux avant. Tu peux pas appliquer naïvement de vieilles recettes sur un monde qui a changé. Je veux dire, nous avons changé et le monde autour de nous a changé.
Céline Dion n'est pas d'accord avec toi.
Donc, les appareils qui nous servent à expérimenter et à construire ce monde forcément changent. Et c'était pas mieux avant. Très littéralement, c'était avant. C'était ce qui était adapté pour avant. Ou pas adapté d'ailleurs, mais. C'était pas mieux.
C'était la même merde, mais juste dans un packaging différent.
Écoute, ce sera le mot de la fin, c'est très bien.
Merde, non, quand même pas.
Sur stop, on quitte le time.
Non.